Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore ensemble plusieurs points chauds de l'actualité africaine.
Oui, grâce aux infos d'Africa Presse.
Exactement. On va parler économie, politique et puis environnement. Au Cameroun, en Guinée, au Niger, en RDC et aussi au Tchad.
Un programme chargé.
Oui, l'idée c'est vraiment d'extraire l'essentiel de ces situations qui sont parfois complexes, de voir ce qui ressort vraiment.
De dégager les dynamiques clés en fait.
Voilà. Bon, commençons par le Cameroun. Il y a ce port fluvial de Garoua. C'est un port historique, hein.
Ah oui, 1935, très important pour le commerce régional, surtout avec le Nigeria juste à côté.
Mais voilà, le problème, c'est que sa réhabilitation qui avait été annoncée en 2021, ça patine sérieusement.
Ça n'avance pas, effectivement.
Les activités tournent au ralenti. Apparemment, manque d'eau en saison sèche, manque de matériel aussi, des grues, ce genre de choses.
Oui.
Pourtant, il y a un exportateur de coton là-bas, Al-Hadji Issa, qui dit que, malgré tout, le transport fluvial reste un avantage. Ce qui est fascinant là, c'est que ça montre bien une dépendance économique très forte. Le régisseur du port, il le dit sans détour, hein, sans le Nigeria, à dire vrai, le Nord Cameroun n'existerait pas. Ah oui, c'est direct.
C'est très direct. Et ce projet de réhabilitation, on parle de 16 milliards de francs CFA, donc environ 24 millions d'euros.
Mmh.
Les études de faisabilité sont terminées, elles sont prêtes. Mais voilà, on attend toujours les financements pour le dragage, qui est essentiel.
D'accord.
Et si ça réussissait, ça ne relancerait pas seulement Garoua, ça pourrait vraiment désenclaver le Tchad et la Centrafrique aussi. C'est un enjeu d'intégration régionale, en fait.
Oui, on voit bien le potentiel bloqué. Alors, cette question de gestion des ressources, des infrastructures, ça nous amène assez naturellement en Guinée.
Mmh.
Là, le gouvernement de transition, il a frappé fort. Retrait de plus de 100 permis miniers, hors bauxite.
Oui, une centaine. Ça concerne des sociétés comme Ramras, Engineering SIL. C'est une décision assez radicale.
Qu'est-ce qui motive ça, selon vous?
Alors, ça s'inscrit clairement dans la volonté du général Doumbouya, qui est au pouvoir depuis le coup d'État de 2021, de reprendre la main sur le secteur minier. Un secteur vital pour la Guinée, mais qui a souvent été critiqué pour son opacité.
D'accord.
Il y a une ONG, Action Mines Guinée, qui parle d'assainissement du cadastre minier. En clair, faire le ménage dans les permis pour attirer des investisseurs qu'ils jugent plus crédibles, plus sérieux.
Et l'objectif final, c'est...
C'est aussi, et peut-être surtout, un enjeu social énorme. Faire en sorte que les immenses richesses du pays, l'or, le fer, la bauxite, profitent enfin à la population guinéenne, qui historiquement en a peu vu la couleur, quoi.
C'est un objectif louable, mais est-ce que cette reprise en main, même si elle vise plus de transparence, plus de retombées locales, est-ce qu'elle ne risque pas de faire un peu peur aux investisseurs étrangers? Au moins à court terme.
Ah, c'est tout le pari. C'est un équilibre très délicat à trouver. Il faut affirmer sa souveraineté, assainir le secteur, mais en même temps, il faut garder un climat qui reste attractif pour les capitaux.
Bien sûr.
Parce que sans capitaux, pas d'exploitation. Donc le signal envoyé est fort, c'est sûr. Reste à voir comment il sera perçu par les investisseurs potentiels. C'est une question ouverte.
Mmh. Et cette tension autour des ressources naturelles, elle prend une tournure, on peut dire, encore plus géopolitique au Niger, avec le groupe français Orano.
Ah oui. Là, la situation pour Orano, c'est vraiment critique.
Critique, carrément.
Oui, critique, c'est le mot. Depuis le coup d'État de 2023 et la rupture diplomatique avec la France, Orano accumule les difficultés. Ils ont perdu le contrôle du site de la Somaille.
Ah oui.
Et de son stock d'uranium. On parle de plus de 1000 tonnes, une valeur estimée à 250 millions d'euros quand même.
Énorme.
Ensuite, le site de Cominac est à l'arrêt. Et surtout, très récemment, le retrait du permis d'Imouraren.
Imouraren, c'est le très gros gisement, c'est ça?
Exactement, un des plus grands gisements d'uranium au monde. Alors face à tout ça, Orano admet publiquement que la cession de ses actifs est une option sur la table.
Donc ils envisagent de partir?
Ils l'envisagent sérieusement. Et apparemment, il y aurait déjà des acteurs intéressés, potentiellement russes ou chinois, qui se manifestent.
D'accord.
Orano a saisi le CIRDI, le tribunal d'arbitrage de la Banque mondiale, pour tenter de régler le différend. Mais franchement, l'issue est très incertaine. On assiste peut-être vraiment à la fin d'une ère pour l'exploitation française de l'uranium au Sahel.
Fin d'une époque. Bon, changeons un peu de registre. Mais restons sur la gestion des ressources et des territoires. Direction la RDC.
Oui.
Là, on parle de protection de la faune. spécifiquement les éléphants dans le parc national de l'Upemba. Il y a une initiative en cours.
Oui, une initiative assez intéressante qui utilise la technologie. Il s'agit d'équiper une dizaine d'éléphants, surtout les matriarches ou les malmeneurs, avec des colliers GPS.
D'accord, pour les suivre. Et l'objectif, c'est quoi exactement, hein?
Alors, l'objectif, il est double, en fait. D'abord, mieux suivre leurs déplacements pour essayer d'anticiper et de prévenir les conflits avec les populations locales. On sait que les éléphants sortent parfois du parc, surtout là où il n'y a pas de clôture, et peuvent détruire des cultures.
Mmh.
Et le deuxième objectif, c'est bien sûr de lutter contre le braconnage, qui reste une menace très sérieuse pour les à peu près 200 éléphants qui restent dans le parc.
200 seulement ?
Oui, ce n'est pas énorme. Et ils font aussi des prélèvements ADN en même temps, pour étudier la génétique de ces éléphants. Savoir s'il s'agit d'éléphants de savane pure, par exemple.
C'est l'approche moderne, c'est sûr, pour la conservation. Mais est-ce que c'est suffisant face aux pressions, le braconnage, la pression sur l'habitat ?
C'est un outil utile, c'est certain. Mais ça souligne surtout, je crois, la fragilité de ces écosystèmes. Et puis le besoin criant de moyens, des moyens financiers, humains, n'est surtout pérenne, sur le long terme.
Oui, une protection efficace, ça va au-delà d'opérations ponctuelles, même technologiques. Il faut une vraie stratégie durable.
Bien sûr. Terminons ce tour d'horizon au Tchad. Là, l'actualité politique est assez tendue avec l'arrestation récente de Succès Masra.
Oui, l'ancien Premier ministre et leader du Parti des Transformateurs.
Exactement. Et il est accusé d'incitation à la violence en lien avec un massacre intercommunautaire. C'est assez grave, très grave. Les autorités font un lien direct entre un message audio en langue gambé qui est attribué à Masra et le massacre de Mandakao qui a fait 42 morts, surtout des femmes et des enfants lors d'affrontements entre agriculteurs et éleveurs le 14 mai.
Mmh.
Maintenant, la défense de Masra, elle, conteste absolument ce lien.
Ah bon ? Qu'est-ce qu'ils disent ?
Ils affirment que l'audio en question, il n'est pas nouveau, il date de mai 2023, qu'il est public, sur YouTube même, et surtout qu'il avait déjà fait l'objet d'un mandat d'arrêt qui a été annulé suite aux accords de Kinshasa.
D'accord.
Et donc, selon eux, ce serait couvert par une loi d'amnistie. Ces avocats dénoncent clairement un acharnement politique, juste après l'élection présidentielle, et demandent sa libération.
Contexte post-électoral tendu.
Voilà. Et cette affaire tragique, malheureusement, elle s'inscrit dans un contexte récurrent de conflits fonciers, de conflits intercommunautaires très violents dans le sud du Tchad.
Bon, si on essaie de prendre un peu de recul sur tout ça. Garoua, la Guinée, le Niger, la RDC, le Tchad, on voit quand même des fils conducteurs, non ?
Ah oui, clairement.
Cette gestion compliquée des ressources naturelles, qu'elles soient minières, fluviales ou même la faune. Les reconfigurations géopolitiques, comme au Niger.
Tout à fait. Et puis les défis sécuritaires qui persistent, les tensions politiques internes qui sont souvent liées en fait à ces questions de ressources et de territoire.
Oui. Et aussi on voit des efforts, parfois technologiques, comme en RDC, pour essayer de trouver des solutions, que ce soit pour la conservation ou la gestion des conflits locaux.
Exactement. Et en observant toutes ces dynamiques, il y a une question de fond qui se pose pour tous ces États, je trouve.
Laquelle ?
Comment est-ce qu'ils peuvent équilibrer d'un côté cette affirmation de leur souveraineté sur leurs ressources, sur leur politique intérieure, et de l'autre côté la nécessité bien réelle d'attirer des partenariats, des investissements qui soient stables. Des investissements capables de bénéficier durablement aux populations, mais aussi à l'environnement. Trouver cet équilibre, ça reste un défi majeur, un défi constant. C'est une réflexion à poursuivre bien au-delà de ces quelques exemples, en fait.